un guéridon sur la gauche, souligné par un trait de lumière blanc et un homme seul, debout, qui vient dire adieu. Adieu peut-être, merci c'est sûr. C'était le titre originel de son spectacle. Et c'est devenu Adieu, c'est sûr. Trois mots qui viennent clore les presque 40 ans de seule en scène de Patrick Timsit, puisque oui, la première fois, c'était en 1983. Et dans ce spectacle, il évoque ses débuts mal engagés, parce que la politique maison n'est pas de se ménager. Patrick Timsit affirme qu'il est trop vieux désormais pour embrasser la scène en solo. Pourtant, il a gardé cette voix de violon désaccordé qui lui donne des intonations d'enfant. Cette voix-là et ce rythme, pour faire vivre un texte qui pique et livrer son regard sur l'époque, nourri de ses indignités. Patrick Timsit est devenu humoriste alors que je crois qu'au départ, c'était pas le plan. C'est quoi un humoriste? J'ai choisi une citation de Jules Renard pour le dire. L'humoriste est quelqu'un de bonne mauvaise humeur. Bonjour, bienvenue, c'est Totémique.
Totémique. Rebecca Manzoni sur France Inter.
Mais quelques mots d'abord pour vous parler de Jean Tellet, dont on a appris le décès hier. Tellet dont la vie fut une belle suite d'itinéraires bis empruntés sans calcul. Un môme que l'éducation nationale destinait à la mécanique auto et qui est devenu dessinateur. Un dessinateur qui a fait de la télé en portant des chemises que la Convention de Genève aurait dû interdire. Un dernier de la classe qui a dédié des romans aux poètes qu'il aimait et qui a fait de l'histoire un terrain de jeu sans jamais renoncer à l'exigence de l'enquête. Tellet, c'était une bonté pas béate ni dupe, mais toujours rieuse. Le voici au micro d'Augustin Trapenard dans Boomerang en 2018. Il était présent pour son roman intitulé « Entrer dans la danse ».
Quand j'allais dans des lycées, des trucs comme ça, pour rencontrer des élèves, souvent les élèves me disaient, devant les profs, « Ah monsieur, si on nous apprenait l'histoire comme vous, on aurait des meilleures notes. » et en fait, l'histoire, c'est vraiment passionnant. Et d'aller fouiller, d'aller chercher des pépites, des truffes. Dans... Les premières personnes qui ont lu ce livre, là, qui m'en ont parlé, par exemple, me disent qu'il leur reste l'odeur du livre, alors que mon livre, il sent le papier. Mais ils ont l'odeur de ce que je raconte, oui. De la panique dans Strasbourg. Et ça, j'en suis bien contente, ça, ouais.
Bonjour Patrick Timsit.
Bonjour, c'est toujours un plaisir de l'entendre Jean Tellet parce que à chaque fois je le connaissais pas, mais je ratais jamais un moment. Il y avait aussi un personnage, il y avait une œuvre et un personnage. Et quand il parlait, c'était toujours le dernier petit extrait que j'avais entendu sur une de ses interviews. C'était qu'il avait commencé le dessin et puis à un moment il se servait des fils de Tampax pour pouvoir faire comme ça onduler. Ça, c'était.
Alors, je parlais de sa bonté pas dupe mais rieuse, et vous, dans votre spectacle Adieu, c'est sûr, l'une des raisons pour lesquelles vous dites vouloir quitter la scène en solo, c'est le ras-le-bol d'être méchant. Dans quelle mesure cette étiquette de méchant vous a pesé, Patrick Timsit?
Mais j'ai même lu ce mot dans des bonnes critiques, vous voyez, où on disait « Oh là là, je l'aime, il est méchant ». Et on ne peut pas aimer quelqu'un de méchant. Moi, j'ai trouvé que ce mot, à chaque fois que je le lisais, j'étais triste de lire ce mot. Mais je vous le dis, même dans une bonne critique, le affreux, sale, bête et méchant, pour moi, ça a été un cinéma italien remarquable, des films remarquables. Par exemple, Gros dégueulasse de Rezer n'est pas affreux, sale, bête et méchant. J'arrive pas à le résumer comme ça. Je vois beaucoup, beaucoup de tendresse et que c'est de la férocité qu'il y a des mots comme ça. Moi, j'aime bien quand on disait le lion n'est pas méchant. Le lion, il tue, il est cruel, il est féroce. Il n'est pas cruel d'ailleurs, il est féroce. Mais il tue pour manger, quoi.
Alors, vous citiez Rezer, qui était l'un des dessinateurs de Harakiri, l'inventeur du gros dégueulasse. Le créateur de Janine, ce personnage féminin génial, provocateur, libéré, qui fumait sa clope même quand elle donnait le sein. Et c'est finalement Rezer, donc un dessinateur et pas un comédien, qui vous a donné envie, vous, de le devenir.
Ah, complètement. Quand je voyais ce trait, quand je voyais justement le personnage de Gros Dégueulasse, je me disais, mais si des gens, ils voient de la tendresse derrière, c'est que je peux peut-être m'exprimer. Je compare pas les talents, mais son regard sur la société, même à travers les bêtes, quand il fait La vie des bêtes ou Le monde sauvage, ces titres tellement positifs par rapport au récit qui est à l'intérieur et qui est sombre parfois sur le nucléaire, L'homme qui aimait les femmes, c'est un bouquin qui est sorti et qui résumait quelques planches de Reiser. C'est vrai qu'il a été féministe avant l'heure, écolo avant l'heure, et ça m'a évidemment, je lisais ça, je trouvais ça particulier. Et avec cette particularité, je me disais, bah tiens, on peut peut-être vivre de ce métier en étant particulier et pas tout public, c'est pas grave.
En tout cas, ce qui nourrit aussi votre écriture et vos spectacles, c'est la colère.
Oui. Oui,
ça a toujours été un moteur.
Complètement, parce que de toute façon, quand on, je dis on, parce que j'ai régulièrement, ça faisait plus de 30 ans, donc plus de 30 ans que j'écris avec Jean-François Alain, et les
qui fut l'un des auteurs des Guignols, qui est le scénariste d'OSS 117 aussi.
D'OSS 117, au service de la France, enfin, les premières conversations ne sont jamais drôles. C'est jamais, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait trouver, quels sont les sujets dont on n'a jamais parlé, bon bah depuis la Bible, au revoir, et puis qu'est-ce qui fait rire, alors encore pire, non c'est l'axe, le décalage, oui, la mission c'est de faire rire, c'est obligatoire, c'est un rendez-vous où je trahirai les gens qui se sont déplacés, qui ont payé leur place, ils riaient pas, et puis c'est une promesse de jouissance, donc il serait d'autant plus furax de ne pas avoir joui, c'est pour ça.
Mais comment se passait
Jean-François, ça commence par des colères et des discussions.
Et comment ça évolue? Comment se passent ces séances d'écriture à deux? Pourquoi vous avez besoin d'être à deux pour écrire, Patrick Timsit?
Ah, parce que sinon je vais faire un baby, je vais faire un flipper, j'ai toujours un tas de trucs à faire au lieu de travailler.
Vous procrastinez.
Moi, si j'ai pas rendez-vous, je bosse pas, moi. J'ai toujours été... C'est drôle, on n'a jamais vu que j'étais auteur, parce que j'ai toujours été co-auteur, moi. Il y a au moins 8 scénars qui sont devenus des films, dont
Pédale
douce, ou autre, ou Paparazzi... etc. Et c'est vrai que j'ai besoin. Et puis j'ai besoin de ce répondant. À la base, j'arrive quand même avec un sujet. Je potasse seul. Et quand je suis seul, les premières choses, c'est pourquoi. Par exemple, les adieux. Au début, je voulais faire un best-of, quoi. Je me disais, bon, best-of, peinard, tranquille. Allez hop, on change toutes ces années. Et puis je me suis dit, mais... Je sais pas, j'ai l'impression que les gens vont s'ennuyer, vont être déçus au bout du premier, deuxième, troisième qu'on connaît. C'est pas comme les chansons, les tubes, c'est extraordinaire, c'est un plaisir de les réécouter. Les sketchs, j'ai eu peur. Et je me suis réveillé,
Vous aviez peur que certains sketchs aient vieilli, par exemple?
J'avais peur surtout moi, je travaille pour les gens qui m'aiment. Alors on peut dire, quelle facilité, mais c'est quelle complaisance. Pas du tout, parce que les gens qui vous aiment, c'est pas forcément les plus gentils, les plus sympas, dans leurs mots, je veux dire. Ils sont bienveillants, donc ils sont gentils, mais leur propos, c'est pas toujours des bénis oui-oui. Donc, et après, c'est à eux de faire leur travail et de convaincre ceux qui m'aiment pas. Mais je travaille pas pour les gens qui m'aiment pas, ça fait pas avancer quelqu'un qui vous aime pas. Quelqu'un qui vous aime pas, quand vous merdez, il va vous dire continue, quand vous faites quelque chose de bien, il va vous dire arrête. Ça sert à rien, les gens qui vous aiment pas. Pas s'entourer de ces gens-là.
Vous parliez de chansons, là, vous avez forcément choisi quelqu'un que vous aimez.
Oui, pour certainement.
Pour le tube du jour, vous vous souvenez pas, je vais vous le remettre dans l'oreille, on va écouter le refrain du tube que vous avez choisi.
Parfait.
C'est ça.
Dalida.
Donc, alors...
C'est toute une longue histoire, Dalida, finalement, parce que Montmartre, moi, j'ai passé ma vie au pied de la butte, pas sur la butte, on n'était pas avec les snobs et tout, c'était pas l'avenue Junot, c'était Lamarck-Collincourt, plus bas, peut-être Jules Geoffrin, ma mère qui avait des galeries, des maroquineries, des galeries, je me suis pris pour un autre, un mytho, donc il y avait des maroquinerie à Château Rouge, à Barbès, et puis Dalida, Pédale Douce, Salaba, et puis cette chanson qui est festive, et là elle a raté son coup parce que c'est vrai qu'on a tous envie de mourir sur scène quand on est.
Mais alors là vous jouez en ce moment Adieu c'est sûr et vous choisissez Mourir sur scène de Dalida, il y a quand même comme une contradiction.
Mais elle-même, elle a contrarié ses plans là pour enfin. J'ai joué d'ailleurs Bruno Cocatrix dans Dalida.
Oui, oui.
Ça me faisait plaisir parce que tout d'un coup, c'est moi qui ouvrais le rideau. J'ouvrais le rideau de l'Olympia, comme on me l'a ouvert à l'Olympia, Cocatrix. Oui, Dalida, en tout cas, ce morceau, c'est aussi un morceau de fête. C'est, pour moi, c'est aussi, c'est Tanger, c'est cette petite maison d'hôte dans la Casbah qui s'appelle le Darnour, voisin de Christophe, notre feu Christophe. J'ai été extrêmement triste, évidemment, qu'ils partent. N'en parlons pas, mais en plus de là, à Brest, conduit, libérer un lit pour partir pour Brest, j'ai l'impression presque que c'était anonyme, tellement c'était peu par rapport à ce monsieur Christophe. Et je rencontre Cali dans un couloir, pardon, j'ai un raisonnement par association d'idées.
Mais comme le spectacle d'ailleurs, oui, le spectacle. Vous êtes sur scène comme dans votre discours, c'est-à-dire que j'imagine que tout ça est très structuré, mais le spectacle fonctionne précisément association d'idées. Et c'est écrit au cordeau, j'imagine, mais le soir où je suis venue, vous êtes entrée et dès le début, vous avez remarqué un gamin de 7 ans.
Ah, au premier rang, de 7 ans, il m'a dit qu'il avait 7 ans, il était tout petit.
Et vous avez improvisé à partir de ça, c'est revenu plusieurs fois dans le spectacle. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête quand vous avez vu ce môme, auquel vous vous êtes adressé d'ailleurs, et qui a dit de sa petite voix « J'ai 7 ans ». Qu'est-ce qui vous est passé par la tête?
Mais je suis un papa, moi. Ouais, je suis un papa, donc mes enfants sont élevés avec cet humour. Et tout d'un coup, quand je vois cet enfant, j'ai pas envie qu'il s'ennuie, j'ai pas envie qu'il passe à côté de sa soirée. Et je me dis ah, « Tiens, ils ont dû venir pour un Indien dans la ville, ils doivent pas tellement être au courant du sujet du spectacle. Et il va falloir, tant pis, mais ce soir, ce sera pour lui. » Et je lui ai dit « T'as 7 ans, quand tu vas ressortir, t'en auras 32, tu vas mûrir vite. »
Oui,
ça va
vu
aller
le texte.
Très vite. Mais il se marrait bien. Et même à un moment, oui, je lui disais « T'expliqueras ça à tes parents », parce que je voyais les parents quand même de temps en temps écarquiller les yeux. Oui, je suis dans la vérité. C'est pour ça aussi que je me retrouve à faire le livre de ma mère d'Albert Cohen, c'est le même principe. Le 30 ans, je lis un bouquin, 30 ans plus tard, je me retrouve sur scène, on avait rendez-vous, et je me suis dit, je jouerai ce bouquin, on fera l'adaptation, mais je le jouerai quand je n'aurai plus à jouer, justement. Quand je serai, quand vous vivez un texte joué, c'est très particulier. D'ailleurs, c'est ce que je disais à mon enfant, il trouvait ça bizarre, papa va jouer. Le soir, quand vous dites à votre enfant, dors, papa va jouer. Et étant dans la vérité, je ne peux pas faire semblant de ne pas voir, je ne peux pas faire semblant de ne pas entendre ce qu'on me dit. Donc, je suis pas pour l'impro à gogo, hein, je vais pas chercher l'impro. Mais là, vous voyez cet enfant au premier rang, et moi, je veux qu'il s'éclate. Je veux que ce soit un rendez-vous aussi bien pour lui que pour les parents. Et les parents me rassuraient d'ailleurs. Ils étaient là, ils vous encouragent, ils vous disent si, si, on sait ce qu'on est venu voir, et ils vous font des signes du pouce comme ça vers le haut. Heureusement. Vous imaginez vers le bas, le pouce au premier rang.
Là, en tout cas, c'est le moment où nos micros en mousse rouge vont se transformer en micros en métal chromé, grâce à un Californien qui aime le confort de velours des clubs de jazz et les vieux diners. Voici Nick Waterhouse.
Walking by the sea, and I heard it calling me.
Inter, totémique, Rebecca Manzoni.
Donc je vous le redis, hein, Patrick Timsit, c'était Nick Waterhouse. Vous vous êtes imaginé comment là ?
Ah là, j'étais avec le café, avec le pain grillé, le pain dans le toaster et l'odeur du pain grillé. J'étais bien. Je vous disais, faites-moi donc mes playlists du matin. Je rame à chaque fois le matin.
Playlist du matin ou playlist de la nuit ? Parce que vous êtes insomniaque.
Ah ouais, absolument. J'ai du mal à dormir depuis des années et des années et des années.
Est-ce que vous dormez mieux quand vous jouez ?
Je dors mieux quand je joue, oui. C'est avant de jouer que je dors mal. Oh là là, ces cauchemars, les cauchemars récurrents. Où vous êtes là, je vais pour jouer. Je viens répéter, on me dit, mais c'est la première. Mais comment ça, je connais même pas le texte. Mais si, les gens sont là. Ou alors, enfermé dehors, c'est-à-dire je vais fumer une clope. Non mais attends, ça commence là. Non, je vais fumer une clope. Et je me retrouve à l'extérieur. Et je dois rentrer par la salle et les gens que je croise sont que des amis et la famille, c'est-à-dire le public le plus pourri du monde. Je les croise tous, bonjour, comment ça va mon fils ? Alors, bien, fais-nous rire et tout. Oh là là, l'horreur.
Et comment vous entrez sur scène ? Alors, comment vous vous concentrez avant d'entrer sur scène quand vous êtes bien éveillé ? Comment
alors,
ça se passe ?
Justement, vous parliez de cet enfant qui était là samedi soir. Je dois être ouvert. Vous voyez, on avait un avocat, malheureusement, tout le monde se moquer de lui, Jean-Claude Van Damme, quand il disait « aware ». Et j'étais triste, vous savez, j'adore les bronzés, comment pas, le Père Noël est une ordure, je suis plié en quatre, mais le mal que ça a fait au mot « gentil », il est gentil, je veux pas dire du mal, mais il est gentil. Et c'est vrai que quand je me concentre dans les coulisses, avant, le rideau est encore en train de s'ouvrir, que je suis encore en train de parler au régisseur pour être vraiment « aware », à l'écoute, parler normalement, dire bonsoir, comme je viens de le quitter, je vais dire un bonsoir tout à fait naturel.
Donc comme si la scène était vraiment le prolongement d'un moment de vie, comme s'il n'y avait aucune frontière entre l'un et l'autre,
ouais,
en fait. Et
moi, c'est pas de faire du spectacle qui va me manquer, parce que c'est vraiment des adieux au one-man show, au stand-up. C'est la tribune. C'est de m'exprimer à des gens. Il n'y a pas de quatrième mur pour moi. Je viens et je m'adresse aux gens. Et par exemple, pour me concentrer dans ce spectacle, je me disais pas, oh là là, faut que tu les fasses rire. Je disais non, je viens leur raconter une histoire, voilà pourquoi j'arrête, voilà les 10 bonnes raisons, et il se trouve que c'est drôle.
Mais il y a aussi dans ce spectacle, et il y a toujours eu de votre part, quand même un vrai plaisir à incarner des sales types.
Ah oui. Oui, j'aime incarner le rôle des méchants. Alors là, dans les films pour enfants, alors là, je me régale encore plus.
C'est mais qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ?
Je vais pas vous citer Hitchcock qui dit qu'un bon film, un film réussi, c'est quand le méchant est réussi. Ça voudrait dire que je me jette des fleurs, mais non, incarner le méchant. Je sais pas, il y a une complicité. Vous voyez, par exemple, quand je tournais Polly, j'étais vraiment celui qui voulait faire du saucisson avec le poney, et tous les enfants étaient passés leur journée dans ma loge. Donc, je crois que je joue, que je suis resté dans cet esprit, comme ça, du enfant, gamin.
Mais incarner le méchant, je me disais que c'était aussi une façon pour vous de jouer avec deux postures qui sont très très contemporaines. Ce qu'on appelle d'un côté, ce que certains appellent le politiquement correct, d'un côté, et ce que d'autres, tandis que d'autres dénoncent ce politiquement correct en disant on ne peut plus rien dire, alors que eux s'expriment beaucoup. Vous vous amusez beaucoup avec ces deux postures antagonistes en étant dans le rôle du méchant sur scène, je trouve.
Ah oui, mais parce que d'abord je trouve que on comprend mieux quand on voit. Donc quand on voit un sexiste, machiste s'exprimer en disant bah oui, mais ma femme elle fait tout le temps la gueule, je rentre à 6h du matin, elle fait la gueule, elle me dit j'ai pas dormi de la nuit, mais moi non plus, j'ai pas dormi de la nuit. Bon bah on a compris que c'est un gros con quoi. C'est mieux que de dire c'est un gros con, ce sera pas drôle de dire c'est un gros con. Et là, au début les hommes rient et puis après ils rient de moins en moins et les femmes montrent leurs hommes du doigt, ben moi je dis que grâce au méchant que j'ai interprété, à ce gros lourd qui est là, comme ça, je vais pouvoir dénoncer quelque chose comme le racisme.
Mais votre façon de le faire, c'est d'être jamais en surplomb. Vous êtes vraiment dans l'interprétation, vous êtes le sale con, comme vous dites, oui. Au premier degré. Y a oui. pas, vous êtes jamais Oui, vous êtes...
Parce que je connais l'écriture, je sais ce qui est écrit, je sais ce que je vais dire, je sais que ça va être interprété comme je veux que ce soit interprété, et tant pis pour ceux qui passent à côté. On va pas priver les gens avec qui je m'entends de cette interprétation, de cette double interprétation. Oui, en jouant le méchant, je dis des choses qui sont gentilles. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas que j'en ai marre d'être méchant, j'en ai marre d'entendre Tim C, t'es méchant. Ma nature, c'est gentil. Mon style d'humour, c'est méchant. Et d'ailleurs, même dans ce morceau, dans ce paragraphe du spectacle, c'est là où je m'en donne à cœur joie à être encore plus, mais encore plus violent, je dirais, plus dans les images que je donne par ma gentillesse.
Là, on va changer de registre, parce que la voix que vous avez choisi d'entendre, c'est celle d'un chanteur belge qui est décédé il y a pas très longtemps, qui s'appelait Arnaud. Et vous avez choisi précisément son discours sur sa mère. Arnaud, donc, dans les yeux de ma mère.
Ouais. Ben, cette voix, ce personnage, et ces mots, ce langage cru, c'était la reine du suppositoire. Vous vous rendez compte? C'est comment, avec le mot suppositoire, avoir autant de tendresse dans un mot comme ça, quand on parlait de réserve tout à l'heure. Je l'avais croisé une nuit à Bruxelles, dans un bar qu'il adorait, un vieux bar de Bruxelles, et avec un ami à lui qui est Sam Ludwig, qui est un acteur flamand. Et c'était dans le... J'avais pris ce morceau en plus dans le livre de ma mère, et le livre de ma mère,
oui,
d'Albert
Cohen. Oui, parce que vous avez adapté le livre de ma mère d'Albert Cohen.
Avec Pitoisé, avec Dominique
pour
Pitoisé.
Pour la scène.
Ouais, ouais. Et je l'ai joué pendant 3 ans, ça a été un rendez-vous incroyable, et d'avoir... Et même Albert Cohen, dans ce... Il y a tout ce côté littéraire, poétique, parfois vraiment dont il faut s'éparer pour la scène, pour en faire une œuvre scénique et oublier l'œuvre littéraire. Il y a ça aussi, quand il dit « sainte poire, esclave, chien fidèle, n'avais-je pas tous les droits ?» J'adorais ces moments, justement, où cette déclaration d'amour, ce roman d'amour, avec des mots durs qui sont parfois pour soi. Moi, ces adieux, ce que j'aime, c'est à un moment, j'engueule mon public, je me sépare amoureux. On est encore amoureux et on va se séparer. Et ça fout la rage. Et ça me met une rage, une vraie colère. Et c'est peut-être ma façon, justement, la plus intime pour...
Et la plus digne, peut-être.
Oui, pas de pathos.
Qu'est-ce qui vous passe par la tête au moment du salut sur scène, Patrick Timsit?
C'est qu'on se reverra plus comme ça. Ce qui me passe par la tête, c'est que... Mais il y a eu des moments mais incroyables. J'ai fait lever un paraplégique. J'ai fait lever un paraplégique. Les gens étaient debout, j'ai dit, ben lui, non, il s'en fout. Lui, alors, il n'a pas aimé, il est là dans son fauteuil, tranquille, les autres sont debout, attends. Il s'est levé de toutes ses forces, on s'est tombé dans les bras, on pleurait tous les deux. C'est voilà ce qui se passe. Il se passe un gars qui y a un homme qui se lève au moment des saluts et qui commence à chanter « Ce n'est qu'un au revoir » et vous avez 1000 personnes qui vous chantent « Ce n'est qu'un au revoir ».
Là,
ça, j'y pense, oui.
Là, le texte avant le dernier salut totémique, avant la fin de l'émission, le texte que vous avez choisi de nous lire, c'est un texte de Xavier Emmanuelli,
oui,
qui est notamment le fondateur du SAMU social de la ville de Paris. Donc oui, je vous laisse chausser vos lunettes.
Du SAMU social international, cofondateur aussi de Médecins sans frontières. C'est un mentor pour moi. C'est lui qui m'a fait découvrir le monde de la rue la nuit, mais dans une camionnette et pour aller marauder. Donc, je voulais lire un texte qui parle de l'exclusion, bien sûr, puisque c'est sa vie, et qui va juste nous montrer qu'il y a 4 stades de l'exclusion. Voilà, c'est pas lui qui pense ça, c'est une réalité, c'est un fait. Alors, les quatre stades de l'exclusion, d'abord, on se bat, souvent maladroitement d'ailleurs, pour se faire entendre. C'est le stade dit d'agression, pour essayer de garder son identité, sa dignité. Mais quand l'agression est trop forte, trop maladroite, les gens sont repoussés et repoussés et repoussés. Jusqu'au jour où ils en arrivent à se dire, enfin, dans le fond, c'est moi qui dois être mauvais, nul, incapable. Dans le stade de dépression, dépréciation, qui est le stade suivant, c'est là qu'on rencontre la drogue, l'alcool, et si on ne les aide pas, ils vont s'enfoncer en arriver au troisième stade, dit de fixation. Alors, pour garder la face, ils disent souvent « j'ai choisi ma vie ». Sans contrainte, je suis libre. Je vais, je viens, pas comme vous. Vous êtes prisonnier, métro, boulot, dodo, bobonne, travail, des routines et des contraintes. Ces personnes ne sont pas boudues, le clochard philosophe du film de Jean Renoir, paresseux, libertaire et bon enfant qui aurait choisi son mode de vie, non. Évidemment, c'est un contresens. Personne n'est libre dans ces comportements marginaux et dangereux qui ne sont pas des choix de vie et qui ont été pris par défaut. La vie à la rue est pleine d'incertitudes et d'agressions. Ces personnes sont en danger, engoncées dans ce qu'elles croient être leur choix. Personne ne peut choisir le danger quotidien, la précarité de la vie et la solitude. Personne ne choisit de vivre l'enfer de la rue. Personne ne choisit cette souffrance. Le présumé anarchiste, le clochard, philosophe, c'est faux. On perd sa vie à petit feu, on dort comme on mange, on ne se soigne pas. Quand on est clochardisé, on est le bienvenu nulle part, ni dans le cabinet de consultation, ni aux urgences. On s'habitue à la solitude et à la douleur. On est repoussé, et c'est le stade 4, le stade de l'abandon. Ils ne peuvent plus prendre d'initiative, ils dépendront exclusivement de la bienveillance, de l'aide fraternelle, de l'humanitaire.
Merci beaucoup.
Vive le monde des bisounours, parce que c'est vrai que j'ai horreur de cette phrase, on n'est pas chez les bisounours, pour s'excuser toute non-bienveillance.
Merci d'être passé dans Totemic ce matin, Patrick Timsit.
Merci.
Vous jouez Adieu, c'est sûr, à la Comédie des Champs-Élysées jusqu'à la fin de l'année. Pour ma part, dans Totemic demain, je vous retrouve avec Pierre Ninet et tout de suite, c'est Ali Ribéi qui est au micro.
Bonjour, Rebecca Manzoni. On assume d'être des bisounours, donc grand bien vous fasse.
Ah, mais oui, vive les bisounours.
Exactement.
Le Dalai Lama est un bisounours, c'est le roi des bisounours, le Dalai Lama.
Quel est le programme?
Ce matin, sans transition, comment bien choisir son dentiste et des soins dentaires avec 60 millions de consommateurs. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. Vos dents vont bien, Patrick Timsit?
Les dentistes, il n'y a pas que des bisounours.
Ah oui,
quand
c'est
on
sûr.
Voit celui de Marseille.
Ah oui, des Dentexia, oui, on va en parler d'ailleurs.
Ah parfait, très bien. J'écouterai. Hein.
Merci.
Je vous écoute, hein, soyez.
À toutes, à toutes, Ali.
Bon bisounours.